Le journal avec vous, Ariane Grissel, bonjour.
Bonjour. À la une, cette question, comment va la planète? Les experts climat de l'ONU se prononcent ce matin. Pour les Grecs qui voient une partie de leur pays ravagée par les incendies, le diagnostic est déjà posé. Ça va mal à cause du réchauffement climatique.
Et puis le gel du printemps, les pluies de l'été, l'agriculture sous perfusion et la question de la pollution. À 7h45, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, au micro France Inter.
À suivre aussi dans ce journal, l'extension du pass sanitaire. Ce matin, nous irons en gare Saint-Charles à Marseille, voir comment ça se passe pour ceux qui prennent le train. Le chanteur américain R. Kelly est jugé à New York pour exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement et séquestration. Et puis après Tokyo, les prochains Jeux Olympiques d'été, plus vite, plus haut, plus fort et surtout plus près, édition 2024 à Paris. Des habitants de Seine-Saint-Denis, vous l'entendrez, comptent déjà les jours.
France Inter.
Les experts de l'ONU doivent rendre ce matin le premier volet de leur rapport sur le réchauffement climatique.
234 spécialistes du climat ont planché sur les différents scénarios possibles. Ils rendront leurs travaux à 10 heures. Rapport très attendu alors que l'été est marqué par les catastrophes naturelles, inondations en Allemagne ou en Chine, incendies en Turquie ou en Grèce. Près d'Athènes, sécheresse et canicule ont fait office de cocktail explosif. Le reportage de Julie Pietri.
45 degrés pendant plus d'une semaine. À Sraco-Makédonès, où le feu a brûlé plusieurs maisons. Les habitants sont habitués à la chaleur estivale, mais pas comme ça. Ça fait 10 jours, explique ce vieil homme. 10 jours, insiste encore sa femme. À 45 degrés, voire plus. Nous, on restait à la maison sous l'air conditionné, alors c'était, disons, supportable, dit-elle. Mais c'est à cause de cette grande chaleur qu'on a eu ces incendies. Ça préoccupe tout le monde, le changement climatique. Nikos Bokaris travaille pour le ministère de l'Environnement. Son domaine, c'est les forêts. Le changement climatique, il le voit et il le craint.
Avec le changement climatique, la période propice aux incendies s'allonge. Une autre conséquence du changement climatique concerne la reforestation. Avant, quand on replantait des arbres, on avait les pluies nécessaires pour que les jeunes pousses grandissent naturellement. Mais maintenant, il faut mettre beaucoup plus de moyens, il faut arroser pour que les plantes survivent.
C'est un cercle vicieux qui se met petit à petit en place. Lenio Mirivili, la madame climat de la mairie d'Athènes, est désespérée.
J'ai envie de pleurer, si vous voulez la vérité. Aujourd'hui, je suis très pessimiste sur l'avenir de cette ville. Toutes ces forêts extraordinaires ne seront plus là pour maintenir des températures plus basses, pour piéger les émissions de CO2, pour retenir l'eau. Je ne sais pas si on réalise à quel point on dépend de ces forêts périurbaines pour notre survie dans les villes.
Quand cet été cauchemardesque se terminera, a promis le Premier ministre grec, nous réparerons tous les dégâts. Il s'est engagé à reboiser dès que possible les secteurs incendiés.
D'ici là, il va encore falloir lutter contre les flammes. Ça va un peu mieux près d'Athènes, mais c'est désormais sur l'île d'Eubée que se battent les pompiers. 2000 habitants évacués, de l'aide internationale envoyée sur place. L'incendie fait au moins 30 km de long. Autre continent, mêmes images de désolation et de maisons calcinées. Les pompiers de Californie luttent, eux, toujours contre le Dixie Fire, le deuxième plus important incendie de l'histoire de l'État. 187 000 hectares partis en fumée depuis mi-juillet. Les secours ne pensent pas pouvoir venir à bout des flammes avant une dizaine de jours.
Il va désormais falloir présenter le pass sanitaire pour de nombreuses activités.
Extension des contrôles du code QR depuis ce matin pour aller au restaurant, y compris en terrasse, entrer dans les hôpitaux, sauf urgence où nous serons dispensés, mais aussi pour une partie des transports en commun, tous les TGV ou trains intercités. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous êtes à la gare Saint-Charles à Marseille. C'est finalement presque une matinée comme les autres pour les voyageurs ce matin.
Oui, pas de file d'attente particulière. C'est plutôt fluide pour l'instant sur les quais. Il faut juste avoir son pass sanitaire sur son téléphone ou sur un papier. Christelle a imprimé son QR code pour monter à bord de son train direction Marne-la-Vallée.
Ça s'est très bien mis en place avec la SNCF. Ils nous ont envoyé plusieurs mails pour être bien sûr qu'on ait le pass sanitaire, avec à chaque fois les liens vers le site du gouvernement pour qu'on ait à chaque fois les dernières mises à jour et tout ça. Non, ça s'est très bien passé.
Alors pour certains, le départ est un peu plus sportif. Théo s'est décidé au dernier moment pour prendre un train vers la Haute-Marne. Il a dû se lever tôt pour obtenir son pass sanitaire.
Quand on n'est pas encore vacciné et qu'on voyage beaucoup, faut essayer de faire plusieurs tests dans un temps assez raccourci. Et surtout que le test, s'il passe du coup en plus remboursé, ça fait des dépenses supplémentaires.
En attendant, le pass sanitaire rassure ce couple. C'est leur premier voyage en train depuis de longs mois.
Moi, ça ne me paraît pas drastique, ça ne me paraît pas insurmontable.
On part plus tranquille, voilà.
Il faut continuer à vivre, ça fait 2 ans qu'on est à l'arrêt, donc on reprend un petit peu la vie en faisant attention.
continuer à vivre, à voyager avec le pass sanitaire. Donc pour l'instant, pas de contrôle sur les quais ici en gare Saint-Charles. Ils se feront de manière aléatoire, indique la SNCF, avec de la tolérance, de la pédagogie pour cette première semaine.
Mathilde Vinceneux en direct de Marseille.
Et ce pass sanitaire dans les transports, toutes vos questions tout à l'heure au 01 45 24 7000 au ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, invité de France Inter à 8h20.
Contrôler les uns tout en continuant à proposer les services habituels aux autres, pas toujours évident. Et de nombreux professionnels se demandent comment arriver à tout faire en même temps, surtout dans la restauration. La start-up Douvision a peut-être une solution, une machine entièrement fabriquée en France et qui fait du tout en un. Contrôle de code QR, prise de température et désinfection des mains. Manuel Ruffez.
C'est Arnaud, un des 12 salariés de Douvision Santé, qui fait office de cobaye.
Donc je prends mon QR code sur mon téléphone portable, je le présente au Manoa.
Donc c'est un écran tout simplement avec une caméra intégrée, c'est ça ?
Exactement, mais derrière il y a toute l'électronique et l'informatique qui va traiter le QR code, voir si le QR code est valide ou pas. Il y a eu un petit bip et le QR code est valide.
Le Manoa, c'est le nom de cet appareil. Un boîtier sur pied avec un écran. Il est conçu pour désinfecter les mains ou des objets comme des téléphones portables en quelques secondes grâce au rayonnement ultraviolet. Mais à la demande de ses clients, Roland Danino, le PDG, a fait évoluer sa machine qui pourrait ainsi rendre bien des services.
Ce qui est important, c'est de ne pas avoir une personne qui va contrôler les passes sanitaires. On aura plus des conflits en ayant un humain qui va répondre à la personne qu'une machine.
Elle respecte aussi la protection des données.
Ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse peur, cette machine, puisqu'elle ne relève aucune information. Elle fait simplement un passage, vérification d'un pass sanitaire. Oui, non.
Ce que vous dites, c'est que ça garde pas les informations
aucune
personnelles
information.
De données personnelles.
Aucune.
Ce boîtier coûte entre 2500 et 4000 euros en fonction du modèle, mais peut aussi se louer pour éviter aux cafetiers et restaurateurs de trop piocher dans leur trésorerie, fait valoir Roland Danino.
On le rappelle, le pass sanitaire est accordé aux personnes entièrement vaccinées, à celles qui sont encore immunisées après avoir été malades il y a moins de 6 mois, ou pour ceux qui ont fait un test qui s'est révélé négatif, test de moins de 72 heures et non plus 48, annonce hier du ministre de la Santé Olivier Véran. L'amende pour non-présentation du pass est d'au moins 135 euros.
7h38, les talibans continuent leur progression dans le nord de l'Afghanistan.
Ils contrôlent désormais 5 capitales de province, dont 3 tombées hier, parmi elles Kunduz, l'une des plus grandes villes de la région. C'est un procès très attendu qui s'ouvre aujourd'hui à New York, celui de l'ancienne star du R&B, R. Kelly, le chanteur accusé d'agression sexuelle, notamment sur mineurs. Loubna Anaki.
Son procès avait été retardé par la pandémie. R. Kelly va enfin devoir répondre à la justice. Et la liste des accusations qui pèsent contre lui est longue. Extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, séquestration. Le chanteur est poursuivi pour des faits qui s'étalent sur près de 25 ans. Il est notamment accusé d'avoir dirigé un réseau qui recrutait et préparait des filles, souvent mineures, à avoir des relations sexuelles avec lui. Lui a toujours nié les faits et plaide non coupable. Lors de ce procès, les procureurs vont donc tenter de démontrer que l'ancienne star a mis en place un vrai système de prédation. Il compte sur les histoires d'au moins 6 victimes. Beaucoup estiment que les procureurs vont notamment revenir sur le mariage d'R. Kelly avec la chanteuse Aaliyah en 1994. Une union qui avait été annulée à cause de l'utilisation d'un faux certificat attestant que la jeune femme avait plus de 18 ans et l'en avait en réalité 15. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Brooklyn devrait durer plusieurs semaines. S'il est reconnu coupable, R. Kelly risque jusqu'à 20 ans de prison. New York, Loubna Anaki pour France Inter.
Et cette journée va être dédiée à la sélection des jurés. Nous parlions tout à l'heure du réchauffement climatique et ses conséquences, un sujet hautement politique et dont les Verts allemands comptent bien se saisir. Les élections pour choisir le prochain chancelier ou la prochaine chancelière ont lieu le 26 septembre prochain. Les Verts, eux, lancent leur campagne aujourd'hui avec un premier meeting. Pascal Thibault.
Angela Merkel s'apprête après 16 ans à quitter le pouvoir. Cela fait autant de temps que les Verts allemands espèrent y revenir. Certes, les écologistes participent à 11 gouvernements régionaux sur 16, mais ils veulent cette fois, après l'échec d'une coalition avec la CDU et les libéraux en 2017, faire leur retour aux affaires à Berlin. La conjoncture politique leur est a priori favorable. Une majorité d'Allemands souhaite un véritable changement après les élections du 26 septembre. Le climat fait partie de leurs priorités. Les inondations tragiques du mois dernier ont renforcé cette tendance de fond et les Verts se présentent comme les défenseurs numéro un de l'environnement. Mais la conquête du pouvoir est parsemée d'embûches. Sur un petit nuage au printemps après la nomination d'Annalena Baerbock, les Verts ont souffert des couacs autour de leur candidate à la chancellerie. Prime non déclarée au Bundestag, erreur dans le CV, accusation de plagiat. L'image de la quadragénaire a beaucoup souffert et avec elle, les scores des Verts dans les sondages. Crédité aujourd'hui d'environ 20%, le mouvement a de fortes chances d'être aux responsabilités à l'automne, mais la conquête de la chancellerie paraît compromise. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est terminé. Prochain rendez-vous à Paris, cérémonie de clôture hier au Japon et un retour cet après-midi de Anne Hidalgo, la maire de Paris, avec dans sa valise, symbole du passage de relais, le drapeau olympique. Les prochains Jeux d'été, c'est dans relativement longtemps, en 2024. Mais en Seine-Saint-Denis, département de région parisienne, certains comptent déjà les jours, Lila Lefebvre.
1082 jours à attendre avant les Jeux de Paris. Caïs, 12 ans, a même fait le calcul.
Oui, j'ai très très hâte. J'attends que ça, parce que j'ai envie de voir, tu vois, je regardais la télé, je vais voir ça, c'est pas dans un autre pays. Tout le monde va voir à la Seine-Saint-Denis.
Les épreuves d'escalade, par exemple, juste à côté de chez lui, au Bourget, cette famille d'Aulnay-sous-Bois a elle aussi suivi les Jeux de Tokyo avec passion.
Ah bien sûr, on a acheté une grande télé, un grand écran énorme, spécial pour les Jeux Olympiques Tokyo.
Le judo pour Dalila, la maman, les sports collectifs pour Mélissa et Adam.
J'ai regardé le basketball masculin, le VTT masculin.
J'ai regardé la France féminine.
Alors en 2024,
on sera là sur place, en direct.
On prendrait pas des vacances en août.
Ah ben non, on les bloque.
Pour une fois que ça se passe chez nous, on ne veut pas rater l'occasion de la suivre en direct et de supporter les équipes de France, quelle que soit la discipline, on est à côté quoi.
Cette famille aulnaisienne allumera quand même la télé pour le surf à Tahiti.
Et au Japon, on le rappelle, la délégation française a décroché 33 médailles pour le moment, puisqu'on attend encore les résultats des Jeux paralympiques. Ce sera du 24 août au 5 septembre.
Merci Ariane Grissel pour le journal. L'édito Écho à suivre.